statistiques américaines. L'euro cote donc en ce moment 1,3387. Voilà Claire, je vous rappelle le CAC 40 qui en ce moment gagne 0,68% à 4076 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, et oui, c'est avec Patrice Gélinas, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, deux mois avant sa béatification, le 15 mai prochain, le parcours étonnant de Charles de Foucault. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Charles de Foucault, 1886. Dominant d'histoire. Sa mort à Tamanrasset le 1er décembre 1916 est passée pratiquement inaperçue. Au pire moment de la Première Guerre mondiale, les Français pensaient à autre chose qu'à la disparition de Charles de Foucault, très loin des tranchées de Verdun, assassiné quelque part en plein cœur du Sahara. Et ce n'est que plus tard qu'on a mesuré la dimension de ce personnage hors norme, soldat, explorateur et missionnaire, mais que rien dans sa jeunesse ne prédisposait à devenir un saint. Avant d'être ordonné prêtre, Charles de Foucault était plus connu pour ses conquêtes féminines et son goût pour les fêtes que pour son assiduité à la messe.
Avant de rejoindre Tanger, je suis venu voir un petit lieutenant.
Le Redénard. Serait-il indiscret de vous demander son nom?
Mais pas du tout. C'est le vicomte Charles de Foucault.
Vous le connaissez?
Non, mais c'est son signalement. Brun, joyeux viveur, fastueux, généreux avec les femmes.
Égoïste, entêté.
Fin sans rire, un peu fat.
Caractère exécrable.
Un peu fumiste.
Taquin et mystificateur. Le signalement est exact. Je me reconnais parfaitement. Je me présente. Lieutenant Charles de Foucault, avec toutes mes excuses. Asseyez-vous, je vous en prie, et donnez-moi l'absolution.
Je vous la donne, mes crayons.
Et c'était le lieutenant Charles de Foucault à une époque où ni lui, ni personne, sans doute, n'imaginait qu'il serait un jour béatifié, ce qui sera le cas dans deux mois, le 15 mai prochain à Rome. Jean-François Six, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, responsable de l'Union Charles de Foucault et auteur d'un livre sur les 8 dernières années de sa vie, bien après cette fameuse conversion de 1886, et une jeunesse que rien, dit-on, ne prédisposait à la sainteté.
On est tous prédisposés à la sainteté, quelle que soit notre vie, notre façon d'être. Pour moi, il avait une prédisposition qui était un cœur extraordinaire. Il avait énormément souffert, il avait perdu ses deux parents à l'âge de 5 ans.
La même année, oui.
Oui. Il avait été exilé puisque il était né à Strasbourg, il est à 12 ans, avec la guerre de 70, il doit quitter l'Alsace, son grand-père qui est colonel ne veut pas qu'il devienne allemand. Donc, il sera dans ses blessures continuellement et rejeté bien souvent jusqu'au moment où il rencontrera de la bonté autour de lui.
Et mais est-ce que ce départ, parce qu'effectivement il est né à Strasbourg en 1858, il va quitter l'Alsace avec ses grands-parents, qu'il a pris en charge après la mort de ses parents, est-ce que c'est pas ça qui lui a poussé dans sa première vocation, c'est-à-dire d'être militaire avec cette volonté de revanche, de récupérer l'Alsace-Lorraine perdue en 1870?
En partie, certainement, et donc là, c'est un homme qui est un très grand patriote, et on va voir que pendant la guerre 14, bon, il va ne pas être tendre avec les Allemands, par exemple, parce que pour lui, il faut, comme aurait dit le général Leclerc, que le drapeau français flotte de nouveau sur Strasbourg. Donc pour lui, c'était très clair ça. Mais il a des capacités immenses, en même temps une très très grande générosité. Et je crois qu'au cœur de sa conversion, bon, il cherche la vérité. ça, il rencontre l'islam et ça ne lui va pas, l'islam.
Oui, mais sans aller trop vite, d'abord il est militaire, il rentre à Saint-Cyr assez brillamment, oui. Il en sort en revanche pratiquement.
Il n'a rien fait.
À la fin, il n'a rien fait, il est indiscipliné, il amène dans une caserne une femme qu'il fait passer pour la sienne alors qu'elle ne l'était pas. Il est chassé de l'armée, il va être réintégré, puis il va démissionner. Enfin bref, il est quand même connu pour son indiscipline, Jean-François Six.
Oui, parce que c'est un esprit absolument indépendant et qui n'était pas fait pour l'armée. Il est entré à l'armée, vous le dites, à cause de la guerre de 70, entre autres, mais aussi son grand-père est colonel. Donc il veut suivre une tradition. Et dans l'armée même, il découvre sa vocation parce qu'il réintègre l'armée en s'engageant pour l'Afrique du Nord. Il participe à des combats dans le sud oranais. Et à ce moment-là, sa vocation d'explorateur entre en lui littéralement.
Alors ça aussi, c'est un épisode extraordinaire de la vie de Foucault. Il décide, c'est en 1883, je crois, d'aller au Maroc. Il faut rappeler que le Maroc, à ce moment-là, n'est pas une colonie française, que les Européens y sont très mal vus, ils risquent même leur vie. Très peu de gens connaissent le Maroc de l'époque. Et lui, pour passer inaperçu, se déguise en rabbin.
Oui. En même temps, il a mis beaucoup de choses de son côté. Il a énormément travaillé au point de vue géographique, géodésique, etc. Il ne part pas sans rien. Et alors, il y a des communautés juives au Maroc. Et il pense qu'en se déguisant en rabbin juif, revenant de Moscou en plus, il pourra s'intégrer, s'insérer, semblant de rien, et connaître le pays comme il le veut. N'oublions pas aussi que le Maroc est un enjeu politique entre la France et l'Allemagne. Et que la reconnaissance au Maroc, reconnaissance est un terme militaire. S'il reconnaît
c'est
le Maroc...
C'est l'espionnage, en fait, c'est ça que vous voulez dire?
Non, une reconnaissance, c'est un travail de franc-tireur. C'est un franc-tireur.
D'ailleurs, il fait un rapport sur son voyage, sur son séjour au Maroc, qui lui vaudra la médaille d'or de la Société française de géographie. C'est un homme très, très touche-à-tout, fasciné aussi, disait-il, par l'islam qu'il a découvert en Afrique du Nord, Jean-François Six.
Il est à la fois fasciné et en même temps, il découvre un certain nombre de ce qu'il estime être de grands défauts de l'islam. Ce qui fait que lorsqu'il rentre en France, il veut connaître les religions, il veut rechercher la vérité, et il veut chercher un professeur de religion, c'est-à-dire quelqu'un qui lui dise de manière honnête quelles sont les différentes religions, les arguments pour y adhérer.
Et cet homme, c'est celui qui va lui faire retrouver la foi, au contact donc de ce prêtre, l'abbé Huvelin, que Foucault rencontre le 30 octobre 1886 à l'église Saint-Augustin de Paris.
J'ai compris la leçon du silence devant l'agitation d'un monde en désordre, où l'on n'ose même plus parler de Dieu. L'homme a besoin d'un maître. J'ai choisi le mien. Que dois-je faire pour le servir? Le pèlerin connaît son but, mais il ignore en partant quel sera son chemin. Priez. Priez et partez confiant. Vous reconnaîtrez que vous êtes arrivé lorsque vous serez heureux même de souffrir.
D'un vieux film de Léon Poirier, L'appel du désert, et cette extraordinaire conversion de Foucault le 30 octobre 1886. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Jean-François Six? Comment expliquer que ce fêtard, noceur, brusquement décide non seulement de se convertir, mais de mener une vie extrêmement rigoureuse, vivre le christianisme d'une manière très rigoureuse?
Oui, le noceur, il a été peu de temps noceur, et à côté de ça, l'ascétisme qu'il a vécu en étant un croyant, parce qu'il a vécu un croyant agnostique marqué par Littré, Renan, Taine, entre 16 ans et 28 ans, jusqu'à sa conversion. Et l'ascétisme qu'il a vécu au Maroc, pendant l'année d'exploration au Maroc, ça a été épouvantable. Bon, donc, il n'est plus du tout fêtard. Il est quelqu'un qui recherche d'aimer, en fin de compte. Et l'abbé Huvelin va voir que cet homme, pourtant si rationnel, Foucault est un scientifique, un très grand scientifique et un rationnel. Mais Huvelin va voir qu'en même temps, il a besoin de se jeter dans les bras de quelqu'un, littéralement. Et Foucault va dire à son grand ami Gabriel Tourte, son ami d'enfance, il va dire j'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'il a rencontré d'un seul coup Jésus de Nazareth dans la confession et la communion qui s'en est en suivi. C'est extraordinaire.
Mais alors, il se convertit, donc il aurait pu se contenter d'aller à la messe. Non, pas du tout. Il va vivre sa foi dans ses pires extrémités. D'abord, en acceptant la règle extrêmement rigoureuse des trappistes. Il trouvait même, d'ailleurs, que les trappistes avaient un règlement trop souple, Jean-François VI.
Oui. Alors, c'est un grand absolu. Alors, il dit dans sa conversion, je ne vais maintenant plus vivre que pour Dieu. Bon, alors Huvelin va le tempérer, va le modérer, va l'empêcher d'être un intransigeant, sinon un intégriste. Heureusement qu'il y a eu l'abbé Huvelin.
Pourquoi? Alors, parce qu'il avait des tendances intégristes.
Ah, certainement. Oui, oui. Et aristocratique, intégriste aussi, je peux dire.
Ouais.
Et mais il avait des amis qui étaient de cette tendance-là. Il aurait pu devenir le patron des intégristes. L'abbé Huvelin va essayer de faire en sorte que son cœur se fonde. Et il va devenir un très grand amoureux de ce Jésus de Nazareth. L'abbé Huvelin va l'envoyer en Terre Sainte. Il va rencontrer Nazareth, la ville de Boueuse, parce que c'est en février que, bon. Et il va se dire, mais comment ce Jésus, fils de Dieu, s'est incarné dans ce petit village de rien du tout. Et son cœur va fondre devant ce Jésus de Nazareth.
Il va même s'y installer à Nazareth pendant 4 ans comme domestique de l'ordre religieux des Clarisses.
Tout à fait. Là, c'est une sorte de grande retraite qu'il fait. Il écrit beaucoup des méditations qui certaines sont très très belles. On les a recueillies. Et puis il va être repris par le désir qui est au fond un désir missionnaire. Le vrai Foucault va être de nouveau un désir d'être explorateur évangélique.
Oui, parce qu'en 1901, donc il est ordonné prêtre et il part à nouveau dans le désert, à Beni Abbès, au nord-ouest du Sahara, où son ascétisme étonne même ceux qui l'ont rencontré, comme ce père blanc, le père David, au micro de Samy Simon, dans les années 1950.
Le père de Foucault était à ce moment-là assez maigre. Quand le moment de l'Avent fut arrivé, il nous demanda la permission de suivre son régime ordinaire. Et c'est là que nous vîmes ce que le père de Foucault était capable de faire en fait d'ascèse. D'abord, il garda le silence perpétuel. Puis, il nous avait donné comme consigne de mettre à sa porte une cruche d'eau et une galette arabe. C'est tout ce qu'il voulait accepter. Nous avions cependant, malgré ces consignes, accroché dans sa chambre un régime de date, pensant qu'il y goûterait. Ce régime est resté à peu près intact pendant un mois.
Et c'était un témoin des mortifications du père de Foucault à Beni Abbès. À quoi correspond cette espèce de besoin de se faire mal, de souffrir, de se sous-alimenter au risque de ruiner sa santé, Jean-François VI?
Il y a un ascétisme, un absolu, un goût de l'absolu chez lui, mais que justement il va vraiment arrêter. Pas seulement sur les conseils de son père spirituel, l'abbé Huvelin, mais aussi de son ami Lapérine, et aussi parce que, ayant été dans ses excès, il va être très très proche de la mort à 50 ans en 1908. Mmh. Et là, c'est extraordinaire parce que lui qui avait tant fait pour les populations, qui avait essayé de... lui est absolument démuni. Et c'est lui qui est maintenant secouru, aidé, par la bonté de ces populations autour de lui. Il va être extrêmement frappé par ça. Ces populations qui sont musulmanes pour la plupart.
Justement, bon, il est là-bas en fait pour quelle raison? Il est là-bas pour convertir, il est là-bas aussi, il est fasciné à l'évidence par le désert. Est-ce que c'est pas une espèce de fuite d'un monde moderne qu'il n'aimerait pas, Jean-François VI? Au fond, c'est fuir un peu la civilisation.
Moi, je ne crois pas à ce mythe du désert et je ne crois pas à ce mythe du désert pour Foucault. Parce que s'il s'enfonce dans le sud et vers Tamanrasset, c'est parce qu'il ne peut pas aller à l'ouest, il ne peut pas pénétrer au Maroc. C'est strictement interdit, strictement maintenant impossible. Plus impossible que 20 ans avant. Bon. Donc, il s'enfonce vers le sud, mais il s'enfonce dans le monde de Touareg, dans le monde de populations qui ont leur une certaine autonomie, et qui ont une réalité, et il va s'enfoncer dans la culture Touareg, dans la langue Touareg. Bon, s'il n'avait pas été là, il est évident que la langue Touareg se serait quasiment perdue, Et de même les coutumes touareg. Il va devenir, comme il dit, du pays.
C'est une journaliste de La Croix qui écrivait en 95 justement, Foucault ne va pas au désert pour se retirer du monde, mais pour s'y enfoncer.
Oui, il s'enfonce dans un monde, et justement dans un monde particulier. Et on peut dire qu'il est frère universel pour autant qu'il est entré dans une culture précise, qu'il l'a partagée à fond. Bon, quand on pense, la plupart de ses journées, des heures de ses journées, c'était à écouter des petites poésies touareg ou des proverbes, et à partir de ça, de faire son fameux lexique français touareg, touareg français. Bon, à faire des dessins pour les objets touareg, c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais au plus profond de la vie.
On dit qu'il rachetait des esclaves aussi, parce que l'esclavage était encore pratiqué.
C'était à Beni Abbès, et alors à Beni Abbès, il y avait un esclavage qui était toléré par les autorités françaises. Il s'est élevé là très fortement contre. Il a voulu aller jusqu'à l'Assemblée nationale pour dénoncer ça très 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 fortement. Les Pères Blancs l'ont un peu calmé là-dessus, mais il a toujours lutté d'un bout de... Et alors, il se référait, lui, aristocrate, un peu monarchiste de tendance, à la République française et à la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité.
Alors il va quand même participer à la colonisation, hein, quand son ami le colonel Lapérine reçoit l'ordre de conquérir le Hogar, où 20 ans plus tôt, en 1881, une première expédition française, la mission Flatter, avait été massacrée par les Touaregs, et Lapérine parvient à convaincre Foucault de partir avec lui.
Le gouvernement général m'a enfin donné son accord. Les Touaregs ont assassiné Flatter. Ils se croiront les maîtres tant qu'ils ne seront pas installés chez eux. Il y a 1500 kilomètres de désert.
Quels effectifs mettons à votre disposition?
Aucun. La colonne se composera de 76 hommes avec Niéger, Besset, Bricogne et moi.
C'est peu.
Vous connaissez le proverbe arabe? Une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouches. Et puis je compte sur un renfort.
Lequel?
Vous.
Et la fraternité?
Sans vous, nous faisons une opération de police. Avec vous, c'est une croisade. Il y a au Hogar des armes à sauver et la France à servir. Quelle est votre réponse?
Lorsqu'on se trouve en présence de deux chemins et que l'un d'eux semble plus dangereux que l'autre, c'est celui-là qu'il faut prendre.
Nous ne partirons pas avant un mois.
Je serai prêt.
الدنيا كل دي فقون ورك الليل سي مقون سي بدا سي مقون مش فاقي قطي بكون الدنيا تنك الرجوان تشتش تتخل وانا ما اسمى دكني اني غرما برشا دكني اني فرجال اني غير تجوان مرسال نرني داغي بام بلاد نرني ايبام ما نسال نرني ايبام نسنقال يبقى مدنها يرمي يبقى مين الزال أروان هرتدال هندها رب رمبوكا أروان هرتدال هندها رب رمبوكا
يكدس كيدا تعمل غسطين جا يكدس كيدا تعمل غسطين جا يكدن موها وطروها ربين جا يكدن شركا يكدن موجا يكدن تريقين يكدن تيروسي.
Vous écoutez 2000 ans d'histoire sur France Inter, aujourd'hui Charles de Foucault et cette chanson du groupe Kinariwen, Arawan, qui était le nom d'un campement touareg dans le Hogar, une chanson qui dit « Le monde est en fuite, personne ne s'intéresse aux gens du désert qui souffrent de la soif ». Des paroles chantées par ces lointains descendants des Touaregs que Foucault avait rencontrés en compagnie de Lapérine quand il était parti coloniser le Hogar, parce que en fait c'est de ça qu'il s'agit. Jean-François Six, il participe à la colonisation, il en partage des idéaux.
Non, je ne crois pas. Je crois que pour lui, la grande idée, et d'ailleurs il sait que le très grand danger est ce qui va arriver, c'est que au fond on ne fera rien pour les populations, et comme il dira en 1908, dans 50 ans, ils nous jetteront à la mer. Et il sera prophète en disant ça. Alors, il suit Lapérine au risque de sa vie, parce que Lapérine va vers le sud. Bon. Mais ensuite, pour demeurer à Tamanrasset, il lui faut l'autorisation de la Ménocale du Hogar, c'est-à-dire Moussa Agamastan.
Le chef des Touaregs. Oui.
Et c'est grâce à lui, et seulement grâce à son hospitalité, Massignon va beaucoup insister là-dessus, que Foucault va pouvoir demeurer là-bas et va être, au fond, sous la sauvegarde des populations. Et non pas des autorités françaises, parce que il y a un vague fort à 50 kilomètres avec quelques soldats et c'est tout.
Mais sous la sauvegarde de population qui ne parvient pas, en fait, il ne pratiquera aucune espèce de conversion. Il est tellement seul là-bas qu'il n'a même pas le droit de dire la messe en principe, parce qu'il faut être deux.
C'est ça. Et donc il ne... C'est justement le moment de sa grande conversion en 1908. Il est absolument seul, il est un peu désespéré, parce qu'il ne peut pas célébrer la messe. Or, pour lui, l'Eucharistie, puisque dans sa conversion, l'Eucharistie a été première, il a le désir de pouvoir célébrer la messe. Et il reçoit enfin de Rome la permission de célébrer la messe. Il le reçoit au moment où il est sauvé par la population de sa maladie, du scorbut, et où il a failli mourir. Donc, pour lui, à partir de 1908... Il ne désire qu'une chose, de rendre l'appareil, c'est-à-dire bonté pour bonté à cette population. Et il dit, je voudrais que ces populations, les Touaregs, deviennent nos égaux. Et il cherche tout. Et alors, comme c'est un scientifique, il pense même à un transsaharien, parce que dans les idées du temps, on pense qu'on va pouvoir faire un chemin de fer qui ira jusque l'Afrique noire, ce qui est une folie. Mais bon, par exemple, pour la télégraphe sans fil, etc., Foucault participe à tout ça.
Mais c'est assez extraordinaire, parce que justement, cette messe, il la disait à plusieurs kilomètres de Tamanrasset, dans ce qu'on appelle la Sécrène, qu'on appelle l'ermitage de Foucault, qui est tout seul, mais alors une toute petite chapelle. J'ai eu la chance de voir ça, c'est dans un paysage absolument grandiose, mais c'est absolument minuscule, et cette solitude extraordinaire. En même temps, les Touaregs, dites-vous, vous dites que ce sont les plus importantes de sa vie. D'ailleurs, c'est pour ça que votre livre s'intéresse aux 8 dernières années de Foucault, qu'on connaît le moins bien, finalement, Jean-François Six.
Tout à fait, oui, il y a des tas de mythes, des tas de légendes autour de Foucault, et non pas qu'on veuille les détromper, puisque j'écris avec Pierre Sourisseau et avec Maurice Serpette, mais on veut vraiment mettre au point, parce qu'il y a tellement, il n'est pas un ermite, il n'est pas un moine, c'est un prêtre séculier qui est là. Alors par exemple, vous voyez le Hogar, le mythe de la Sécrème. La Sécrème est un des plus beau paysage du monde. Quand on est allé, on est stupéfait. Oui, oui. Mais il s'installe là pendant la période où il y a le passage des caravanes. Donc, dans le but de rencontrer les gens et d'être en familiarité et en fraternité avec des gens qui font une halte là, chez lui, auprès de son ermitage ou dans son ermitage.
Il est resté donc 11 ans dans le Hogar. Il arrive en 1905. Oui. Il est tué en 1916. En pleine guerre, dans des conditions assez mystérieuses. Il est tué par des sénoucifs. Rappelez-nous ce qui s'est passé, Jean-François Six, en décembre 1916, quand il est mort, quand Charles de Foucault a été tué.
Il y a la guerre. On est en pleine guerre. Les Turcs soutiennent tout particulièrement les sénoucistes libyens, la Libye qui est tout près du Hogar. Et il y a des infiltrations poussées par les Ottomans, poussées par les Turcs, vers les colonies françaises et vers l'Algérie.
Ils sont les alliés des Allemands, il faut le rappeler.
Alliés des Allemands, bien sûr. Et donc, ils font, en même temps, ils font la guerre, ces tribus, mais font beaucoup de razzias. Foucault fait un petit refuge pour les populations les plus pauvres, pour éviter qu'elles soient constamment rasiées. Et on vient... J'ai démontré ça, il n'est pas mort martyr, et c'est pas du tout mystérieux sa mort. On vient le prendre, ces pillards qui sont en même temps des sénoucistes qui font la guerre. On vient le prendre, et d'ailleurs, quand on le tire de sa petite maison, on le attache les chevilles et les poignets ensemble, pour être mis sur un chameau, pour être un otage. Il devait être un otage. Bon. Or, il est pendant cela, pendant on pille son borge, et il y a un gardien de 15 ans qui est auprès de lui. Et ce gardien de 15 ans s'est affolé, a pris peur, parce que sans doute Foucault a un petit peu bougé, et a tiré à ce moment-là, il a tué. C'est aussi, il est mort bêtement, comme des tas de gens sont morts bêtement dans les guerres au cours du XXe siècle.
Et sans qu'on commande cette mort en France, en Europe, où évidemment il y a la guerre à ce moment-là, si bien d'ailleurs qu'au fond, la célébrité de Charles de Foucault, elle est un peu posthume en quelque sorte. Ce n'est qu'après cette période qu'on parle de lui, et comme on le fait d'ailleurs, écoutez-le, à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort en 1946.
Les solitudes du Hogar conservent intactes les murs où vécut et mourut l'ermite du désert Charles de Foucauld. Comme l'explique son fidèle serviteur, c'est ici, au pied du fortin du Tamanrasset, que Charles de Foucauld donna sa vie pour le service du pays et la protection des indigènes au milieu desquels il vivait. Ce tombeau garde la mémoire du religieux français qui servit si bien là-bas le prestige de son pays.
Alors, je ne sais pas si on parlerait de Foucauld aujourd'hui, comme on le faisait, on vient d'entendre dans cet archive de 46. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, Jean-François Six?
Il a laissé derrière lui, à travers tout particulièrement un homme comme Louis Massignon. Louis Massignon, très grand islamologue. Il y a un certain nombre de disciples de Charles de Foucauld, de disciples qui sont des prêtres, des laïcs, des évêques.
Il y a des ordres qui ont été créés après.
Il y a des ordres, sa mort, oui. Mais surtout, il y a des personnes qui ont été extrêmement touchées par sa manière d'être, au-delà justement de un peu tout ce qu'on a montré, parce qu'il n'est pas mort martyr ni pour la France, ni pour sa foi. Mais il a vécu une vie évangélique, une vie extraordinairement évangélique, une vie... Alors, son évangélisation, pour moi, c'est étonnant. Il est le contraire d'un missionnariste. Il dit, ce sera peut-être pour dans 200 ans que les gens vont peut-être regarder vers le Christ, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis avec eux et j'essaie de vivre fraternellement avec eux, et c'est ça l'essentiel. Donc, il y a un certain nombre de gens qui, aujourd'hui, veulent suivre cette ligne missionnaire, qui est une ligne... non spectaculaire, inséré dans la vie de tous les jours, chacun a son Nazareth, on vit comme Jésus à Nazareth, on vit dans sa vie de Nazareth, et c'est à travers ça que, vraiment, on peut mener une vie de ressemblance au Christ et transformer le monde.
Et au point d'ailleurs d'être béatifié, mais personne n'en parle, c'est dans 2 mois d'être béatifié, alors que son procès en béatification a commencé en 1927, ce n'est qu'aujourd'hui que Charles de Foucauld sera béatifié,
Jean-François
Six, le 15 mai prochain, c'est ça?
Le 15 mai, le jour de la Pentecôte, c'est très beau, parce que aller vers toutes les nations, c'est tout à fait selon ce qu'il est.
Merci Jean-François Six. Je rappelle, pour en savoir plus, que vous êtes l'auteur, avec Maurice Serpette et Pierre Sourisseau, du testament du père de Foucauld qui vient d'être publié chez Fayard. Vous êtes également l'auteur d'un livre sur le parcours de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, son combat spirituel, sa voix, publiée aux éditions du Seuil. Vous avez pu entendre des extraits de 2 films de Léon Poirier consacrés à la vie de Charles de Foucauld. L'appel du silence, édité en VHS chez Film Office, et La route inconnue, Charles de Foucauld au Maroc, disponible en VHS aux éditions Les Documents cinématographiques. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci Olivier Riotor et Bénédicte Roy, Claire Destacan, Claire Tesser, Cédric-Joseph Julien et notre réalisatrice Sam Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une bretonne centenaire, combien connue des générations de jeunes françaises, Bécassine, mais tout de suite à 14h.